Dieu a voulu nous révéler qu'il est à travers une économie de faits et de gestes. Donc, ce qu'il est, dans ce cas, il semble que l'on peut manifester la suprême convenance de l'incarnation du Fils à partir des relations intra-trinitaires dites d'origine et d'opposition, ce qui est le propre d'une réflexion de théologie scientifique. En effet, il revient au Fils seul de pouvoir nous faire connaître dans leur personnalité propre et le Père en tant que source inengendrée et l'Esprit Saint en tant qu'amour procédant de l'union des deux spirants qui sont le Père et le Fils. Dans ce cas, l'éventuelle incarnation du Père n'eût pu nous révéler, en tout cas d'une manière visible, les processions du Fils et de l'Esprit dans leur distinction et leur spécificité propre, c'est-à-dire à partir des relations d'origine. On eût pu alors distinguer le Fils de l'Esprit Saint. De même, l'éventuelle incarnation de l'Esprit Saint n'eût pu nous manifester les personnalités propres du Père et du Fils, car le Père et le Fils ne forment en effet qu'un unique spirateur à l'égard de l'Esprit Saint. C'est dans cette lumière, semble-t-il, que l'on peut le mieux comprendre ce que nous disions hier, à savoir que Dieu nous révèle en plénitude son mystère qu'à partir de la mission sacerdotale du Fils. Car le prêtre étant médiateur, il doit être à la fois envoyé et envoyant. Or, seul le Fils et l'Esprit Saint peuvent être envoyés, et seul le Père et le Fils peuvent être source d'une autre personne. Donc, le Fils seul étant à la fois envoyé par une personne et source d'une autre personne, son sacerdoce seul pouvait refléter existentiellement la vie divine des trois personnes. Nous pensons ici à son offrande au Père et à son envoi de l'Esprit. Je crois que c'est juste que nous pouvons dire ça. C'est sûr que c'est toujours très très délicat, parce que le mystère de la très sainte Trinité demeure le mystère le plus ineffable et le plus difficile pour nous à saisir, mais il est évident que la mission du Fils est pour nous faire connaître le Père en premier lieu et pour nous donner l'Esprit Saint en second lieu. Et donc, à ce point de vue-là, le Fils, dans la très sainte Trinité, autant que nous pouvons le savoir, je dirais, a la situation unique. Il n'est pas médiateur, mais il fonde la médiation. Du fait même de son unité, de sa relation vis-à-vis du Père et vis-à-vis de l'Esprit Saint. Sorte que je crois que nous pouvons le dire, ça. Alors, il semblerait que l'appropriation n'implique pas forcément une analogie métaphorique, car une analogie est métaphorique en raison de l'imperfection inhérente à la ratio sur laquelle elle repose, tandis que l'appropriation, elle repose sur une analogie propre, mais consiste à attribuer sa raison analogique à une des trois personnes divines, comme si cette ratio lui revenait en propre. Il ne s'agit donc pas ici d'une imperfection vis-à-vis de la nature divine, mais d'une restriction dans l'attribution aux personnes divines, de ce que relève de leur communauté de nature. Est-ce que c'est tout à fait ça ? Puisque, au fond, l'appropriation se fait à partir des effets. Vous voyez ? C'est à cause de ça que je mettais, moi, l'analogie métaphorique. C'est toujours en raison d'un effet particulier qu'on l'attribue en particulier à telle personne. Oui ?
Un effet de toute la nature divine.
Ah, forcément. Parce que les trois personnes divines sont cause unique de tous les effets.
Enfin, effet.
Non, quand on approprie la sagesse, faisons attention. Ah, oui, bah, toujours à partir de la création. Bah, que voulez-vous ? C'est à partir de l'ordre de la création. C'est à partir de l'ordre de la création que je dis que Dieu est sage.
Oui, mais c'est propre de dire que Dieu est créateur, c'est bien propre.
Oui, mais l'appropriation. Faisons attention. Si je parle de l'appropriation, ne parlons pas.
Si on approprie la création,
oui, c'est ça. Vous voyez, vous attribuez la toute-puissance au Père. Vous attribuez. Vous voyez, alors j'ai dit, c'est toujours à partir d'un effet particulier. Quoi ?
Ah, aucune. Donc il n'est pas métaphore. Il n'y a pas de métaphore.
Non, mais ça, l'imperfection, c'est dans la connaissance et pas dans les faits.
Dans la raison, elle est dans la raison.
Oui, donc dans la connaissance. C'est dans la connaissance.
C'est dans la réalité.
Non, c'est pas dans la réalité. Non, alors là, je ne dirais pas.
La métaphore, c'est.
Non, non. Elle implique, c'est du côté de la connaissance. Nous sommes dans l'analogie. C'est du côté de la connaissance. C'est qu'au fond, une analogie métaphorique implique une référence à un aspect sensible, mais qui ne ben, dit pas une imperfection.
La réalité comme telle, mais la réalité sensible, est imparfaite pour Dieu.
Ah, ben, toute réalité. Toute créature est imparfaite pour Dieu.
Sagesse.
Mais oui, la sagesse aussi, puisque la sagesse se part à partir de la raison. Mais la sagesse, j'attribue à Dieu la sagesse à partir de quoi ? À partir de l'ordre qu'il y a dans la réalité. C'est une imperfection par rapport à Dieu. Tout est fait est imparfait par rapport à sa cause.
C'est une raison qui n'applique aucune imperfection, sagesse.
Non, faites attention. Nous connaissons Dieu à partir de ses effets. Tous les effets sont imparfaits. Bon, alors, c'est pour ça que je ne prends pas du côté des effets. Je prends du côté de la connaissance elle-même que nous avons. Vous voyez ? Parce que là, nous connaissons Dieu à partir des effets créés. On ne peut pas les connaître autrement. Donc, c'est à partir des effets créés que je connais Dieu. Tous les effets sont imparfaits. Mais ce n'est pas à partir de là que je peux fonder, c'est à partir de ma connaissance. Il y a une connaissance qui implique la saisie de raisons qui, en elles-mêmes, n'ont aucune imperfection. Mais ce n'est pas la créature imparfaite qui n'implique aucune imperfection. C'est mon intelligence qui, saisissant dans la réalité telle ratio, saisit une ratio qui n'implique aucune imperfection. Donc c'est du côté de la connaissance, ce n'est pas du côté des effets. Ah non, c'est tout à fait différent.
Dans la réalité.
Quoi ?
Ce n'est pas les effets comme tels, c'est leur fondement intelligible.
Ah, oui, c'est leur fondement intelligible. C'est pour ça que je dis la connaissance. Vous voyez ? Le point formel, c'est la connaissance. Or, je ne peux pas connaître ce qu'il y a de propre à chaque personne divine, puisque je suis devant un mystère. Vous voyez ? Et je vois, par rapport aux effets, telle relation particulière au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Si je suis au niveau des rationes, des raisons absolument pures, elles sont attribuées à tout le mystère de Dieu en lui-même. C'est par rapport au mystère de Dieu en lui-même. Donc, c'est Dieu dans son unité. Dieu en lui-même. Alors, j'ai la raison de sagesse, j'ai la raison d'intelligence, j'ai la raison d'amour, bah, tous les attributs de Dieu. Bah, tout le traité du De Deo Uno, c'est les attributs de Dieu que j'attribue à Dieu en lui-même. Je le fais à partir de ma connaissance des réalités, donc à partir de ma philosophie qui connaît les réalités et qui essaie de saisir dans ces réalités ces raisons qui n'ont aucune imperfection et que je peux attribuer à Dieu. Et à ce moment-là, je les attribue à Dieu indistinctement, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puisque c'est Dieu un qui est le Créateur. Dans l'appropriation, qu'est-ce qui se passe ? J'essaie de saisir à partir du mystère de la Très Sainte Trinité qui m'est révélé des connexions particulières à l'égard de tel ou tel effet. Puisque je dis, par exemple, que la toute-puissance est appropriée au Père, que la sagesse est appropriée au Fils. Oui. Oui, mais c'est sûr. Mais au niveau des rationnels, je peux pas. Elles sont toutes attribuées aux trois.
En soi, oui. De fait, l'écriture les approprie.
Oui, c'est l'écriture. Et donc, c'est une connaissance symbolique. C'est l'écriture. Vous revenez à l'écriture. Donc, vous revenez à une connaissance symbolique. Il y a quelque chose de symbolique qui permet d'approprier au Père et au Fils. Et c'est à cause de ce point de vue symbolique que j'ai dit quelque chose de singulier. Au niveau purement métaphysique, il n'y a pas d'appropriation. C'est impossible. Et au niveau purement métaphysique, je suis devant des rationes analogiques propres. C'est l'analogie propre. Et c'est ça l'analogie scientifique. Tandis que les appropriations ne sont plus uniquement scientifiques. Oui. Et c'est la connaissance symbolique qui me permet d'aller plus loin. C'est ce qui me semble. J'essaie de comprendre ce que représente ce passage d'une connaissance scientifique où ce sont des analogies propres grâce aux rationnels dans toute leur pureté. Ah, cette connaissance symbolique qui m'est donnée à travers l'écriture. Toute l'écriture est symbolique. Elle n'est pas au niveau métaphysique. Et c'est ce point de vue de la connaissance symbolique qui me permet, elle, qui va m'orienter vers une théologie mystique. Dans la théologie mystique, le point de vue symbolique va reprendre une force tout à fait particulière. Alors que dans la théologie scientifique, l'aspect symbolique est laissé de côté, un peu. Je ne m'intéresse pas directement à ça, je m'intéresse au rationnel pur. Oui. Alors c'est ça qui me semble, c'est tout. C'est ce qui me semble que dans les appropriations, il y a un retour à une connaissance symbolique et donc à un aspect sensible qui est présent et qui me permet de voir une relation particulière à telle ou telle personne. Alors c'est pour ça que je prenais ce point de vue, puisqu'au fond tout est venu de là, avec l'article 3, la question 3, article 8. Nous allons le relire attentivement parce que ça vaut la peine. Et essayer de comprendre le raisonnement qui est impliqué dedans. Où il y a un raisonnement particulier, et c'est, vous voyez, cette situation, c'est ce que je soulignais, c'est évidemment, ça c'est tout à fait accidentel, si vous voulez, quoique dans saint Thomas, c'est assez significatif. Hein. On voit toujours que la connaissance, cette théologie scientifique, va s'ouvrir à une autre théologie, qui sera une théologie mystique, et qui sera une théologie symbolique. Hein? Ce qu'il dit dans les noms divins, il ne le dit pas dans la somme. Hein? Et c'est justement ça, c'est bien dommage qu'il ne le dise pas, parce qu'au fond, il y aurait moins de discussion. Mais il ne le dit pas dans la somme. Mais on sent très bien qu'il y a constamment une orientation vers quelque chose d'autre. Oui, et ça vient en dernier lieu. Parce qu'au fond, savoir pourquoi... spécialement, la raison que vous donnez est très juste, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, et je dis que c'est grâce à la rédemption qu'on peut le connaître pleinement. Il ne le dit pas parce qu'il essaie de serrer le problème au niveau purement scientifique de la chose, de la connaissance de l'union en soi. Mais moi je prendrai ça tout de suite, vous voyez. Alors, operatio sequitur esse, or il détenez-vous de l'esse. Et dans la mesure où on peut, au niveau de l'essai, au niveau de l'union comme telle, voir pourquoi l'union est plus liée au Verbe, au Fils, qu'au Père et à l'Esprit Saint. Alors, relisons ça attentivement, en étant ouvert à la question, et puis en essayant de saisir. Il convenait parfaitement à la personne du Fils, donc convenientissimum, hein, le convenientissimum que saint Thomas souligne parfaitement la personne du Fils de s'incarner, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, du point de vue de l'union, il convient que celle-ci se fasse entre des éléments semblables. Alors, vous voyez, c'est tout de suite que sont similia. Bon, le similia, si je le prends au point de vue purement scientifique... il est très drôle. Il faut bien reconnaître, quand je prends le point de vue de la création et le point de vue de la créature, le Sylvia, fou là là, il y a uniquement laissé participer.
Oui. Au niveau de l'image de Dieu, quand ça doit
être. Ah, mais oui, mais oui, mais alors je
dis qu'il y a une similitude spécifique.
Oui, d'accord, mais si c'est justement, là je ne suis plus au niveau de la création.
Ça fonde, c'est regarder sous un autre niveau, mais ça fonde quand même une certaine.
Oui, mais c'est. Au point de vue de la. Venez, j'essaie de comprendre la rigueur scientifique de saint Thomas dans le traité de la création, et ici, ce qu'il essaie de nous faire entrer dedans.
Sylvia, c'est un mot très vague.
Oh oui, mais le Sylvia chez saint Thomas est quand même assez précis hein, quand il prend dans des délinos. Hein. Alors, il est très vaste. Bon, alors, tout d'abord, du point de vue de l'union, il convient que celle-ci se fasse entre des éléments semblables. Or, la personne du Fils, qui est le Verbe de Dieu, possède un rapport de similitude, alors je vous ai souligné qu'il s'agissait plutôt d'une convenance, conveniencia communis. C'est un tout petit peu différent. Une convenance commune. Alors, une convenance commune avec toute créature. Alors ça, c'est là le point très délicat. Quelle est cette convenance commune du Verbe avec toute créature, hein? Alors, est-ce que ça s'approprie? C'est l'appropriation. Alors, on va regarder après. Et ça vient de saint Jean. Il crée par le Verbe. Et ça vient dans toute écriture, il crée par le Verbe. Or, au niveau strictement scientifique, ça m'échappe. C'est ça que je veux dire, vous voyez? Il y a quelque chose qui m'échappe et cependant, je dois le garder. Alors, on dit appropriation. Quand je sers exactement ce que c'est que l'appropriation, sur quoi ça fonde? C'est ça qui m'intéresse, point de vue, connaissance théologique. Or, la personne du Verbe, qui est le, or, la personne du Fils, qui est le Verbe de Dieu, possède un rapport de convenance commune avec toute créature. Le Verbe ou la conception de l'artiste, en effet, est l'exemplaire idéal de ses œuvres. Et le Verbe divin, qui est le concept éternel de Dieu, est aussi l'exemplaire idéal de toute créature. Hein? Pas commode. Quand vous voyez le point de vue, c'est pas commode du tout de voir ça. Parce que c'est assez gros de faire, vous voyez, on voit très bien au point de vue appropriation, je suis entièrement d'accord, c'est évident, mais si j'essaie au point de vue raisonnement scientifique, parce que d'une certaine manière, quand je vois tout ce que saint Thomas nommait au point de vue de la procession du Verbe, il met juste l'inverse, puisque la procession du Verbe doit être par rapport à la source, ici c'est par rapport aux effets. Hein? Or, par rapport aux effets, en théologie scientifique, saint Thomas donnera toute la théologie scientifique des idéaux. Des idées. C'est l'idée qui est cause exemplaire, c'est pas le Verbe. Oui. Alors, le passage de l'idée au Verbe. L'idée est cause exemplaire. Ça, c'est vrai. Elle est cause exemplaire de tous les effets. Mais l'idée, elle est commune aux trois personnes divines. Elle n'est pas propre au Verbe. Alors, le passage de l'idéa au Verbe et dire que le Verbe est cause exemplaire. Hein, c'est ce qu'il dit. Le Verbe, aux conceptions de l'artiste, en effet, est l'exemplaire idéal de ses œuvres, et le Verbe divin, qui est le concept éternel de Dieu, est aussi l'exemplaire idéal de toute créature. C'est merveilleux, moi je trouve ça très très beau. Au point de vue contemplation, on est tout à fait d'accord. Voilà. C'est merveilleux au point de vue contemplation. Au point de vue précision scientifique. L'idéa, alors il y a l'idéa de l'artiste. Donc, l'idéa de l'artiste me permet de poser l'idéa du créateur. Et l'idéa du créateur, ici, permet de passer au Verbe. Comment se fait ce passage? Au point de vue strictement théologie scientifique, je ne peux pas.
qu'on ne peut pas dire que les trois personnes ont un rôle analogue à ce qu'en nous, il y a entre l'intelligence en acte, le verbe intelligible, le verbe...
Oui, mais ça c'est l'imago.
C'est ça ?
Oui, l'imago. Mais est-ce que c'est scientifique ? C'est ça que je me prenais. Je suis tout à fait d'accord avec vous, au point de vue de l'appropriation. Tout à fait d'accord. Mais cette fameuse chose, l'imago dei, quand on prend l'imago dei, hein, le dominium, l'intelligence et l'amour, hein, et qu'on fait la comparaison avec la très sainte Trinité, qu'est-ce que c'est ? Au point de vue connaissance.
C'est une projection, ou alors si on retrouve une harmonie dans la création de ce qu'il y a à l'intérieur de la
société. Je suis d'accord, cette convenance, mais alors qu'est-ce que c'est au point de vue scientifique ? Voilà, c'est ça que je me place, voyez. Je suis tout à fait d'accord avec vous, théologiquement, on doit le faire, c'est récupérer. Mais alors c'est pour montrer les limites de la connaissance de la théologie scientifique, et là on récupère. On récupère quelque chose qui est très important à récupérer. J'ai tout à fait... Mais on est aux frontières de la connaissance scientifique, et c'est là où j'essaie de trouver comment se fait cette récupération. Est-ce qu'on est en présence de des raisons analogiques propres, ou est-ce qu'on est en présence de raisons analogiques métaphoriques ? Toute connaissance symbolique repose sur les raisons métaphoriques, l'analogie métaphorique. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Toute connaissance symbolique. Alors, ça repose là-dessus. Alors, il y a toute une gamme, hein, je suis tout à fait d'accord, c'est toute une gamme. Mais c'est important pour essayer de saisir le raisonnement théologique, vous voyez ? Le raisonnement théologique dans toute sa pureté scientifique. Et il semblerait que dès que je suis par rapport au mystère de la très sainte Trinité, je commence un tout petit peu. Le DDO, il est très scientifique. Alors là, tout à fait d'accord. C'est comme ça que la somme commence par le point de vue. Mais dès que je suis au mystère de la très sainte Trinité, je vois que l'analogie scientifique est très très faible par le point de vue de la procession. Et que je suis obligé, dès que j'essaie de comprendre, j'allais dire, caractère propre de chacune des personnes en référence avec la création, c'est là où il me semble intervient l'analogie métaphorique. Et quand je dis analogie métaphorique, là, je vous montre tout ça, c'est pas du tout pour diminuer au point de vue théologique, c'est simplement pour. On a besoin d'un plus petit. Et là, le point de vue le plus petit devient quelque chose de très important pour notre connaissance symbolique.
On retrouverait quelque chose de l'analyse qui est au début du commentaire des évangiles de Saint Jean sur le Père, où il explicite la puissance intellectuelle, sa conception, son acte.
Oui, mais alors.
Où justement il essaie de voir ça en Dieu.
Oui, mais là, il le fait tout à fait comme dans la somme. Ici, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est ce passage de l'idéa vers. Je vois très bien l'analogie de l'idéa à l'idéa. C'est déjà pas commode, hein. Mais ça peut se comprendre dans la somme, hein. Quand il prend les idées en Dieu. C'est prodigieux comme astuce, c'est prodigieux comme chose. Alors, ce qui me semble ici tout à fait particulier, c'est ce passage de l'idéa au verbe, cause exemplaire. Hein ? C'est ça qui me pose question, je ne suis pas du tout heurté, hein. Je vois très bien que c'est très très beau au plan contemplation. Si j'essaie de visser les écrous, donc la technique même de la connaissance scientifique, je dis, il y a quelque chose qui fait appel à autre chose. Voilà, tout simplement. Et alors, il me semble que c'est une analogie métaphorique.
La question, pourquoi il n'est pas parti des relations
de la Trinité ? Ah oui, ça c'est autre chose, ça c'est un autre problème.
Oui, mais ça aurait été scientifique. Disons, ça aurait reposé sur une démarche antérieure.
Je crois que ça va être... Oui, je vois. C'est ce que vous essayez de faire. Ce que vous essayez de faire. Alors, ce serait intéressant, ce serait très intéressant de se demander pourquoi Saint-Amand ne prend pas une démarche comme celle-là. Oui. Et qu'il prend cette démarche-là.
Qui est dans l'écriture, hein, je dirais.
Elle est dans l'écriture. Elle est dans l'écriture, elle est beaucoup plus scripturaire. Mais parce qu'elle est beaucoup plus scripturaire, elle est beaucoup plus symbolique. Oui. Et par le fait même, c'est pour ça qu'il dit analogie métaphorique. Je crois que tout symbole implique le point de vue de la métaphore. Alors là, c'est peut-être parce qu'on joue sur deux points de vue différents. Tout symbole, je crois, implique le point de vue de la métaphore, parce que tout symbole implique une question de représentation. Il y a dans tout symbole un lien entre la signification et la représentation. On n'est pas uniquement dans la pure signification.
Oui. On ne matérialise rien du verbe en tant que sagesse.
On ne matérialise rien du tout. Ah, mais c'est pas
matérialisé. Symbolique.
Mais oui, c'est symbolique.
C'est un autre symbole.
C'est parce que je crois que vous prenez les symboles uniquement au niveau. Moi, je prends un symbole divin, là. Hein. Le symbole divin à l'intérieur de la théologie. C'est pas du tout symbolique, au point de vue purement poétique. Faisons attention. Mais c'est quand même symbolique. Mais c'est carrément comme l'analogie. Hein. L'analogie au point de vue théologique, philosophique et l'analogie théologique. Alors c'est la même chose au point de vue symbolique. Et c'est la même chose au point de vue analogie métaphorique. L'analogie métaphorique appliquée à Dieu a une valeur toute différente que l'analogie métaphorique. Alors si vous restez au point de vue analogie métaphorique, le préquéri, ne va pas avoir plus du tout. Oui.
Convenance commune. Pourquoi est-ce qu'on leur vient directement du côté de la création et donc par appropriation par rapport au créateur qui est le Père? Il ne me semble pas que ce soit écrit explicite dans l'article. On peut très bien regarder cet article du côté des relations divines en tant que le verbe de procession. Et oui. Donc du côté de la procession, oui. Il y a une raison, il y a une similitude.
Du côté de la procession, il y a une similitude. Mais du côté de la procession, la similitude du verbe par rapport au Père.
Oui, mais il y a aussi...
Et non pas par rapport à la question des créatures.
Oui, c'est exact.
Vous voyez, c'est ça. Les idées de Dieu comme créateur, hein, les idées de Dieu comme créateur, regardez les trois personnes divines. Et les idées de Dieu par rapport sont causes exemplaires des créatures. L'analogie avec l'idée par rapport à l'œuvre. Alors on voit ça, cette analogie, bon, très bien, elle est très belle. Elle est très belle, elle est très stoïcienne, n'est-ce pas ? Elle est très stoïcienne, c'est évident, c'est tout le stoïcisme qui est assumé là, par saint Thomas, et c'est pour ça qu'elle n'est pas tout à fait propre, vous voyez ? Saint Thomas ne prend jamais ça pour démontrer l'existence de Dieu, jamais, parce qu'elle n'est pas rigoureuse. Alors que tous les pères dans l'influence stoïcienne prennent ça pour prouver l'existence de Dieu, et saint Thomas ne le prend pas, alors il connaît ça chez les pères. Il s'enseigne du côté de la démonstration des idées.
Mais si on prend du côté des effets de la pensée de Dieu, il y a d'un côté le verbe, un créé, et d'autre côté la création. Et par là, il y a une raison de similitude.
Oui, mais faisons attention. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je cherche, c'est de savoir au point de vue raisonnement, vous voyez, le raisonnement rigoureux au point de vue scientifique. De la théologie scientifique, dans le traité de la très sainte Trinité. Le Verbe est directement référence au Père. Il exprime la contemplation du Père. Et les idéaux que j'attribue à Dieu, je les attribue à Dieu créateur. C'est le Dieu créateur qui a les idéaux. Donc le Dieu créateur, il est un. Père, Fils et Saint-Esprit. Le passage ici, de voir l'analogie qui existe entre l'idéa de l'artiste et le verbe, en télescopant l'idéa aux exemplaires. La télescopage. Merveilleux. Et il passe tout de suite au verbe. Oui. Et c'est ce petit point qui est délicat. Non, parce que la procession, on ne fait pas appel on fait appel uniquement à l'analogie de la connaissance qui implique un concept.
Il y a donc appropriation.
Ah non, ce n'est pas appropriation. C'est une analogie propre. C'est propre de la connaissance comme telle, d'être capable d'engendrer un fruit qui exprime et qui peut exprimer la propre connaissance.
Oui, mais la connaissance, nous ne la connaissons que par notre connaissance, donc par
tes... Tout à fait. Mais oui, mais alors, tout. Oui, mais alors c'est pour distinguer l'analogie, les raisons analogiques propres et les raisons analogiques métaphoriques. C'est uniquement ça.
Oui. Et justement à ce sujet, est-ce que la connaissance que nous avons de la très sainte Trinité, par l'analogie de l'intelligence, du verbe, n'est pas par rapport à l'appropriation comme une propriété? Parce que finalement, dans l'appropriation, on prend toutes les propriétés du verbe. Et donc, elle a du point de vue scientifique, la connaissance théologique qu'on a de la très sainte Trinité et la connaissance qu'on a des appropriations a la même rigueur. Puisque justement, elle est de la propriété. Et la propriété a la même rigueur scientifique que son principe.
Ah. Est-ce que vous connaissez les propriétés?
Les propriétés, en nous, on sait que le verbe a telle propriété.
Oui, mais c'est, faisons attention. Les personnes divines, vous ne connaissez pas le QI des personnes divines pour connaître les propriétés. Donc.
Les personnes divines, non.
Oui.
Mais par le biais du moment qu'on en reconnaît l'analogie entre la connaissance spirituelle et la vie spirituelle et la Sainte Trinité, les propriétés de la connaissance spirituelle pourront aussi...
Oui, c'est possible. Alors là, vous voyez le point de vue de l'analogie de proportionnalité, c'est ça que vous voulez dire. Je vous vois le dire, c'est l'analogie de proportionnalité. Alors, je ne sais pas si c'est ça directement. Parce que je ne sais pas si on peut mettre la même rigueur entre les deux. Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire que les appropriations sont analogiquement, par rapport à chaque personne divine, les propriétés que nous connaissons près du scientifique?
On peut le dire si ces propriétés ne sont pas liées au mode de notre connaissance intellectuelle. Et si vraiment elles disent quelque chose...
Ah tiens, c'est quelque chose de réel, elles sont liées aussi à notre mode de connaissance.
Voilà, dans cette mesure-là, elles n'ont pas la même rigueur. Ça, c'est évident.
Et vous ne pouvez pas faire l'économie de ça.
Et est-ce qu'on peut le discerner?
Vous pouvez le connaître, de voir que vous ne pouvez pas parler de la très sainte Trinité indépendamment de ça. Et c'est là où j'essaie de comprendre, est-ce que nous ne faisons pas appel à un type d'analogie différent, voyez, pour affirmer les propriétés. C'est pas pour l'affirmer la propriétation, c'est pas autre chose. Je ne l'affirme pas d'une façon absolue, parce que c'est toujours une question que je me suis posée à moi-même. Et j'ai jamais vu la question résolue. Je cherche. Je pose la question, parce que je peux pas dire, je ne la résous pas de façon absolue. Je dis qu'il y a là un problème au point de vue de la structure même de la connaissance scientifique qui me semble intéressant. Et alors, il me semble personnellement, je ne dis pas plus, il me semble personnellement que c'est la théologie scientifique qui s'ouvre à une théologie mystique. Alors, en théologie mystique, ça je peux affirmer hein, que l'analogie de métaphorique, alors là, elle est pleinement assumée. Vous vous souvenez, c'était par rapport aux grandes analogies qu'il y a dans Saint Jean, le Verbe, le Fils, le pain. Alors, c'est quand même là très significatif. Hein. Là, on a quelque chose de très net. On dit que c'est beaucoup plus subtil, alors je suis tout à fait d'accord, c'est beaucoup plus subtil quand il s'agit des appropriations. Bon, continuons également. Oui.
Bon, ça implique toute la démarche scientifique qui manifeste que le Verbe est donc l'expression du Père, oui. Dans laquelle il y a tout le Père et toutes les créatures. Oui. Il y a une espèce de dépassement de cette première conception par le point de vue de la philosophie de l'art qui permet de faire l'analogie.
Qui permet de passer tout de suite.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, ce passage n'implique-t-il pas un type de connaissance différent?
C'est ça, puisque c'est la philosophie de l'art qui permet de faire l'analogie.
Alors, continuons. Le verbe ou la conception de l'artiste, en effet, est l'exemplaire idéal de ses œuvres. Et le verbe divin, qui est le concept éternel de Dieu, est aussi l'exemplaire idéal de toute créature. Dès lors, puisque par la participation de cet exemplaire idéal, les créatures sont constituées dans leur espèce propre, tout en restant soumises à la corruption, il était normal que par l'union personnelle au Verbe, et non plus seulement par simple participation, la créature déchue fut rétablie dans son ordre à la perfection éternelle et immuable. C'est en effet par le moyen de la conception idéale, donc le Verbe, qui lui a fait produire son œuvre que l'artiste la restaure lorsque celle-ci vient à déchoir. L'union de la nature humaine au Verbe permet à la nature humaine d'être restituée dans toute sa perfection, comme lorsqu'une œuvre est abîmée, le restaurateur reprend l'idée de l'artiste pour restaurer cette œuvre. C'est extraordinaire, c'est très très beau, hein. C'est très très beau comme raisonnement au niveau connaissance artistique. Et vous voyez que ça joue sur les deux plans, parce que ça joue d'abord sur l'idée pour comprendre le point de vue de la cause exemplaire, et ça rejoue une nouvelle chose pour le point de vue de la restauration. La restauration de l'œuvre se fait en remenant l'œuvre à sa source, et qu'elle ne peut pas se faire autrement. Puisque la restauration, une véritable restauration, c'est reprendre l'œuvre à sa source. Alors forcément, hein, quand on a restauré la Visitation de Fribourg, hein, puisque là on a un exemple merveilleux, illustre, plein de monde, quand on a restauré la chapelle de la Visitation de Fribourg, le restaurateur, qui était un professeur bien connu, bon, le restaurateur a pensé, lui, l'idée idéal de l'artiste qui avait fait ça, et il a voulu remettre l'Église dans cet idéal. De même Dieu. Là vous voyez, hein, c'est métaphorique. De même Dieu, devant la nature corrompue, a remis cette nature corrompue dans le Verbe, qui est cause exemplaire, il y a de la nature humaine. C'est très très beau, ça. Prédication merveilleuse. Alors, en prenant la Visitation, l'église de la Visitation, alors on voit la manière dont tout a été restauré, surtout les statues, n'est-ce pas? La restauration qui s'est faite de cette manière. C'est très très fort, c'est très beau. Je crois qu'on est devant un type de raisonnement scientifique, voyez, d'un caractère particulier. C'est ça tout simplement que je veux souligner. Et c'est très beau, hein. Alors, d'autre part, second raisonnement, le Verbe de Dieu possède un rapport de similitude spéciale avec la nature humaine. Alors là, c'est votre imago. Hein? Aliomodo habet conveniensiam spécialitaire, une convenance spéciale avec la nature humaine. C'est l'imago. Hein? Car le Verbe est le concept de l'éternelle sagesse de laquelle toute sagesse humaine dérive. Ah oui, exeo quod verbum est conceptus aeternae sapientiae, dans l'éternelle sagesse de Dieu, aquo omnis sapientia hominum derivatur. Ça, c'est tout à fait.
Il y a aussi une appropriation.
Non, parce que le concept de la sagesse éternelle, là, la sagesse éternelle, c'est Dieu.
C'est l'appropriation. Le concept de la sagesse se frappe
à la connaissance. Non, c'est la très sainte Trinité, c'est la procession. C'est la procession.
Donc, ça serait propre.
C'est propre, là c'est propre. Moi je crois que c'est propre. Vous voyez, c'est simplement pour, quand on lit, parce qu'on peut lire Saint Thomas comme ça à toute vitesse, c'est d'essayer de comprendre, parce que je crois que c'est ça le propre de la théologie, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les analogies en cause et comment on fournit ces analogies. Parce qu'on est théologien qu'au moment où on a conscience de l'analogie propre qu'on prend ou de l'analogie métaphorique. Vous savez à ce moment-là ce que vous faites. Vous voyez ? Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans une lecture de Saint Thomas. Enfin, il y a deux choses. Il y a à lire saint Thomas, d'abord, on voit très bien, on entre dedans, on voit que c'est magnifique et tout ça. Mais il faut essayer de saisir la structure de la pensée. C'est une connaissance scientifique que saint Thomas veut nous donner. Et à certains moments, nous voyons bien que ça éclate. Hein? Tout à fait. Là, il n'y a aucune difficulté pour le second. Toute la difficulté pour moi, c'est le premier. Vous voyez, la difficulté de compréhension. Hein? C'est la première analogie, c'est ce passage. Hein? C'est ça. C'est ce moment-là qui me semble... Vous voyez, comprenez bien ce que je veux dire. On n'est plus devant une analogie propre, on est devant un télescopage qui peut très bien s'en prendre en fonction de l'appropriation, en fonction de ce qui me semble analogique. Métaphorique, oui.
J'arrive pas à comprendre comment on peut dire que, la conception du Verbe dans le sein du Père est une analogie propre. Car si on parle de la connaissance, le Verbe est fruit de la connaissance, et il y a une conception de l'intelligence, et cette conception de l'intelligence, je ne peux la regarder que par rapport à notre intelligence. Donc, il y a déjà une analogie qui appelle l'appropriation. Oui. Parce que j'approprie au Père.
L'intelligence comme telle n'implique aucune imperfection. La ratio intellectus n'implique comme telle aucune imperfection. Je peux donc l'attribuer à Dieu. Hein, vous êtes d'accord?
Oui.
Quand je dis que Dieu est intelligent, est-ce que c'est une analogie propre ou métaphorique? Pour moi.
Là, c'est propre.
Alors, très bien. C'est suffisant. Deuxièmement, la révélation me dit qu'il y a en Dieu une fécondité. Hein? C'est la révélation. Donc je suis au-dessus de l'analogie, je suis directement devant la révélation. La révélation me dit qu'il y a une fécondité. J'essaie, au point de vue théologique, d'expliquer, autant que je peux, l'explication théologique, ce qu'est cette fécondité. Cette fécondité dans une intelligence pure. Je vois que la seule analogie que je peux prendre, c'est que, de fait, l'intelligence, mon intelligence, hein, alors mon intelligence, elle est limitée, je suis d'accord avec vous, elle est limitée et elle n'arrive pas à un concept. Mais ce concept de l'intelligence n'est pas nécessairement limité, puisque l'intelligence elle-même n'est pas limitée. Et donc son fruit peut très bien ne pas être limité. Bien que chez moi, il est limité. Vous voyez ? Mais ça reste une analogie propre. Parce que je suis au niveau de l'intelligence et au niveau de son fruit.
Oui. Exactement, il n'y a une analogie propre que dans les processions immanentes et non pas ad extra.
Oui, c'est sûr.
C'est
la... Oui. Et c'est propre parce que justement, l'intelligence comme telle n'implique aucune imperfection. Et alors, le fruit de l'intelligence peut très bien. Avec, moi, il applique une imperfection. Ça, c'est évident. Je suis tout à fait d'accord. Je purifie cela pour l'attribuer à Dieu. Exactement comme mon intelligence n'implique aucune imperfection. Je veux dire, comme mon intelligence implique une limite, mais la ratio intellectus n'implique pas de limite. Bien, je dirais la ratio verbi, la raison du concept comme tel n'implique pas d'imperfection. Parce que je suis au niveau de l'intelligence. Et donc je peux l'appliquer à Dieu dans une analogie propre au niveau de la fécondité. Tandis que,
c'est ça le point de vue plus délicat,
tandis que lorsqu'il s'agit de la cause exemplaire, alors est-ce que la cause exemplaire peut arriver à être complètement sans imperfection? C'est là où le point de vue le plus difficile. Et alors là, vous passez tout de suite justement à des opérations qui ne sont plus immanentes, qui sont des opérations transitives. Bon, continuons. Encore combien de minutes? Oui.
Par rapport aussi à la vérité, c'est un peu le problème quand on dit que Christ est vérité.
Oui, oui.
Ça rejoint de l'idée, mais c'est encore plus.
Ah, c'est plus profond. Oui, c'est plus profond. C'est pour ça que j'ai dit, il y a toute une gamme, et c'est ça qui serait... Et je comprends très bien la réaction première quand je dis analogie métaphorique, parce qu'on pense... Pour moi, il y a toute une gamme de la connaissance symbolique. Mais je crois que toute connaissance symbolique, du point de vue philosophique, en étudiant ce que c'est que la connaissance symbolique, je crois que toute connaissance symbolique est liée à une représentation et une signification. La signification, analogie propre, la représentation, analogie métaphorique. C'est simplement à ce point de vue-là que je prends. Oui. C'est une appropriation, c'est la même chose.
Est-ce que c'est propre ou...
C'est une analogie, c'est une appropriation plus profonde, si vous voulez, parce qu'il y a toute une gamme, mais c'est métaphorique aussi. Ça reste symbolique. Très bien. Ça aussi, c'est symbolique. C'est un signe qui implique une représentation, donc...